Bien le bonjour, chers auditeurs. Nous sommes à l'antenne sur la web radio de Saint-Louis-Sainte-Clotilde. Aujourd'hui, nous allons faire ce que vous aimez, critiquer une œuvre littéraire. Les liaisons dangereuses de Chadorlos de Laclos. Cet ouvrage est un joyau de la littérature française. Ce livre est multivers. Il explore énormément de thèmes, incluant l'amour, la manipulation, la tromperie et la décadence de la noblesse française au XVIIIe siècle. Notez que ces différents sujets soulèvent des questions intemporelles sur la nature française. N'est-ce pas merveilleux? Êtes-vous conquis, chers auditeurs? Alors, suivez-moi dans ce cosmos. Cet ouvrage raconte l'histoire de la marquise de Merteuil et du vicomte de Valmont, qui manipulent et séduisent leur entourage pour parvenir à leur fin, mais finissent par être pris dans leur propre filet. Pour ma part, je trouve ce livre incroyablement bien écrit. Il montre le pouvoir de la rhétorique en action, et c'est vraiment plaisant. L'intelligence des différents personnages m'ont séduit, dont la marquise de Merteuil, car elle est à la fois manipulatrice brillante et c'est une femme très complexe. Sa capacité à manier les mots et à orchestrer les intrigues m'a fascinée. Si vous l'avez lu, chers auditeurs, dites-moi quel personnage vous a le plus intrigué dans ce livre. J'ouvrirai tous vos messages. Dans ce bijou, vous pourrez donc observer de la séduction et vous poser la question suivante. Quel rôle joue la séduction dans l'intrigue? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Cet élément joue un rôle central, j'ai bien dit central. Elle est utilisée par les personnages afin de manipuler, tromper et obtenir ce qu'ils désirent. La séduction devient une arme. Elle a du pouvoir et mène à des conséquences totalement inattendues. Comme dit le proverbe, on ne prend pas les mouches avec du vinaigre, qui veut tout dire et convient parfaitement à l'ouvrage, mettant en œuvre le charme du contrôle. Qui dit séduction dit manipulation et tromperie. Ces deux éléments influencent l'histoire, alimentant les intrigues, trahisons et rebondissements. Et c'est ce qu'on veut, c'est l'histoire qu'il vous faut. L'ouvrage explore, comme vous avez pu le voir, plusieurs sujets, donnant au lecteur une vision plus clairvoyante de la noblesse et de la société de l'époque. Amoureux de voyages dans le passé et d'intrigues, cette histoire vous appartient. Merci de m'avoir écouté, chers auditeurs. Rendez-vous dans quelques jours pour un nouveau podcast. Et souvenez-vous, les livres ouvrent des mondes, alors restez connectés.
Les liaisons dangereuses. Les liaisons dangereuses de Chadorlos de Laclos est un livre basé sur des intrigues libertines de la haute société française du XVIIIe siècle. En effet, ce livre est un roman épistolaire car les écrits ne sont représentés que par des lettres. Ce roman, qui dès sa sortie fut polémique, est en effet problématique du fait du comportement des personnages qui utilisent d'autres individus comme des proies. De mon point de vue personnel, je place ce livre dans la catégorie de romans que je conseille, car au-delà de l'intrigue, des jeux de séduction, de l'amour et de la tromperie qui sont pour le moins palpitants, Laclos cherche dans ce récit à mettre en évidence des propos féministes qu'il reflète dans le personnage de la marquise de Merteuil. En effet, celle-ci joue pour le moins un double rôle dans sa vie quotidienne tout en imposant la discrétion. Son premier rôle est celui de la demoiselle aux bonnes manières, alors que son second est celui de la femme jouant avec les sentiments des hommes de manière sournoise par le pouvoir de la parole, afin de parvenir à humilier la gente masculine. Ce comportement pour le moins choquant montre que la marquise ne suit pas et ne rentre pas dans les normes de la société d'autrefois, car elle le vit comme elle l'entend et non comme les autres l'entendent. Laclos la place dans ce récit comme supérieure, ce qui est pour le moins différent des romans lus à l'époque.
Bonjour, je m'appelle Loli Mercia Landari et aujourd'hui je vais défendre le livre « Les liaisons dangereuses » écrit par Chadorlos de Laclos. Donc tout d'abord, j'ai beaucoup aimé ce livre car j'ai trouvé l'histoire vraiment passionnante et toujours mouvementée. Dans chaque lettre, les passions comme la tension, la colère et le désir entre les deux protagonistes, mais aussi avec les autres personnages, s'accentuaient de plus en plus. Et pour moi, c'est vraiment les provocations permanentes entre les deux protagonistes. sournois et pervers qui rendent ce livre vraiment unique en son genre. De plus, ce qui m'a vraiment plu dans ce livre, c'est que l'esprit humain est vraiment bien représenté et qu'il dépeint en quelque sorte des comportements cruels et pervers qui seraient aujourd'hui considérés comme normaux. Et finalement, c'est pourquoi selon moi, ce livre représente en quelque sorte la société dans laquelle on vit, qui banalise la cruauté et la manipulation d'autrui, mais qui cependant a des atouts comme la solidarité et l'amour.
Mesdames et messieurs, dans le cadre de ce discours, je me propose de présenter Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. Dans l'œuvre complexe qu'est Les Liaisons dangereuses, Choderlos de Laclos n'est pas simplement un critique du libertinage, mais plutôt un analyste perspicace des intrications sociales et des passions humaines au XVIIIe siècle. En dévoilant les manipulations, les intrigues et les jeux de pouvoir à travers les lettres échangées entre les personnages, l'auteur offre une critique satirique de la société aristocratique de son époque. Le roman ne se contente pas de magnifier la langue française, mais son génie réside également dans la manière dont il sonde avec profondeur les relations humaines, mettant en lumière la complexité des liaisons amoureuses. Le choix du genre épistolaire, bien que pouvant initialement dissuader certains lecteurs, se révèle être une force majeure de l'œuvre. Il permet une immersion profonde dans les pensées intimes des protagonistes, créant ainsi un outil dramatique redoutable. À travers les 175 lettres qui composent cette histoire, Laclos parvient à animer ses personnages de manière troublante, suscitant par moments la question de la réalité de leur correspondance. La figure de la marquise de Merteuil, veuve du XVIIIe siècle, est particulièrement fascinante. Sa quête de liberté, dissimulée derrière le masque de la dissimulation, trouve son apogée dans la lettre 81, où elle expose avec une sincérité teintée de vanité comment elle a acquis une maîtrise parfaite d'elle-même. Celle-ci lui offre la liberté d'action nécessaire pour vivre à sa guise et entretenir des liaisons sans éveiller les soupçons. Entre la marquise et le vicomte de Valmont, anciens amants, subsiste une entente basée sur une estime mutuelle et des secrets compromettants. L'intrigue se complexifie lorsque Valmont tombe amoureux de Madame de Tourvel, déclenchant ainsi une série d'événements qui mettent en lumière la nature tragique des liaisons décrites dans le roman. Ainsi, derrière la façade du libertinage, Les Liaisons dangereuses dévoilent une quête d'amour inavouée, explorant les ramifications complexes des relations humaines. La victoire de Merteuil sur la rivale de Valmont, bien que satisfaisante du point de vue moral, laisse une empreinte amère, soulignant les conséquences tragiques qui découlent des jeux dangereux de l'amour et du pouvoir. Pour une expérience complète de cette œuvre, je recommande également le film de Stephen Frears qui capture brillamment l'essence de l'intrigue et la profondeur des personnages, offrant ainsi une interprétation cinématographique remarquable de l'œuvre de Laclos.
Le roman de Renard est un recueil de récits animaliers rédigé en 1174 par Pierre de Saint-Cloud. Dans ce recueil, les personnages sont des animaux personnifiés, ils s'expriment et vivent comme des êtres humains. Le livre raconte la vie de Renard, un goupil, père de famille, qui s'apparente à un vassal. Contrairement aux ouvrages ordinaires, Renard est un protagoniste qui est bourré de défauts. Il adore manipuler et jouer de mauvais tours aux autres animaux, comme avec la mésange qu'il essaye de dévorer, ou comme avec Isengrin le loup, qu'il persuade avec de la nourriture pour devenir chanoine, pour ensuite l'abandonner dans la forêt, une nuit d'hiver, dévêtu de sa pelisse et poursuivi par des chiens. Il se fait également passer pour un mort pour éviter celle-ci. L'expression « rusé comme un renard » vient en partie de cette histoire, puisque le goupil est très malin, contrairement aux autres animaux. Pour ma part, j'ai apprécié le roman. Les thématiques de la ruse et de la perfidie sont certes amusantes et bien exploitées dans différents sujets, mais cela devient rapidement redondant. Cela est normal puisque c'est un recueil pour enfants. On retrouve, pour un public plus mature, la satire de la société médiévale. La vie féodale est ici très stéréotypée avec des personnages adaptés au rôle, comme le lion, qui est dans l'histoire le roi des animaux, et les caractères de société plus que réalistes. La construction de la société des animaux de ce roman est copiée sur celle de l'auteur. Je recommande le livre pour toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui aiment la comédie.
Mesdames et messieurs, la pièce de théâtre Don Juan de Molière a animé de nombreuses discussions et controverses au sein de notre société depuis sa création. Toutefois, malgré sa renommée et son genre littéraire, cette œuvre est loin d'être parfaite. Tout d'abord, la pièce soulève la question morale centrale de la conduite du personnage principal, Don Juan. Son comportement dépravé et son manque de scrupules en font un anti-héros. Molière présente un protagoniste qui refuse de se conformer aux normes sociales et morales de son époque, ce qui peut être perçu comme une critique de l'hypocrisie de la société de son temps. Cependant, la glorification de l'immoralité de Don Juan pourrait être interprétée comme une validation de comportements égoïstes et destructeurs. De plus, le traitement de thèmes religieux dans la pièce est sujet à débat. La remise en question constante de la morale religieuse et des valeurs traditionnelles peut être perçue comme une critique audacieuse de l'autorité de l'Église à l'époque de Molière. Néanmoins, cela a pu être mal interprété comme une attaque directe contre la foi, ce qui a généré des réactions controversées et des accusations d'irrévérence. En outre, certains soulignent que la pièce manque de profondeur dans le développement de certains personnages, les réduisant à des figurants simplistes. Cela pourrait limiter la portée et la nuance de la critique sociale que Molière voulait transmettre. En conclusion, Don Juan de Molière est une pièce riche en subtilité, en satire et en réflexion sur la morale, la religion et la société. Néanmoins, elle n'est pas exempte de lacunes, notamment en ce qui concerne la perception de la moralité du personnage principal et la profondeur de certains aspects de l'œuvre. Cette pièce reste un sujet de débat et d'analyse dans le monde théâtral et littéraire, offrant matière à réflexion et interprétation.
Bonjour et bienvenue dans ce podcast littéraire où nous plongeons dans l'univers complexe de Don Juan de Molière. Cette pièce, bien que souvent célébrée pour son audace et son humour, suscite également des questionnements et des critiques. Certains reprochent à Molière son portrait équivoque du personnage principal, Don Juan, qui peut sembler dépourvu de toute rédemption. En outre, la comédie satirique de l'auteur peut être interprétée comme une attaque cynique envers les normes sociales et religieuses de l'époque. Certains lecteurs soutiennent que la pièce peut être perçue comme provocatrice, défiant délibérément les conventions morales. En creusant plus profondément, on peut se demander si Molière cherche véritablement à critiquer la société ou s'il s'agit d'une satire subtile des attitudes extrêmes. Don Juan demeure ainsi un terrain de débat littéraire fertile où la moralité et la satire se confrontent dans une danse complexe. Merci à vous pour cette écoute.
Douze hommes en colère est un film de Sidney Lumet de 1957 en noir et blanc, dont l'acteur principal est Henri Fonda. La première scène se déroule dans un tribunal. Un jeune immigré est accusé du meurtre de son père. Tout le film va se dérouler dans la salle de délibération. Les 12 jurés doivent prendre une décision à l'unanimité de culpabilité ou de non-culpabilité. Pour tous ou presque, la décision est évidente. Il est coupable. Un vote unanime face à sa culpabilité le mènerait donc à la peine de mort. Chacun lève la main pour le désigner coupable, cependant le 8e juré doute de sa culpabilité. Il n'y a donc pas unanimité. Débute alors un long débat. Durant tout le film, ce 8e juré, par ses paroles, va peu à peu faire s'immiscer le doute dans l'esprit de chacun des 11 autres jurés. Ce film démontre le grand pouvoir de la parole, car le 8e juré, à force de persuasion, va totalement bouleverser une décision qui paraissait évidente au début du film. Il y a un renversement très intéressant de situation, car ces 11 jurés, persuadés de la culpabilité du jeune homme, à la fin du film, finiront par le déclarer non coupable, car ce 8e juré aura fait naître en chacun d'eux le doute raisonnable. La force de persuasion aura été telle que le 8e juré aura fait changer l'opinion des 11 autres personnes. Ce film est un exemple parfait d'éloquence et montre le pouvoir que peut avoir la parole, car elle va permettre de sauver une vie. Le 8e juré va savoir adapter sa parole en fonction de la personne à convaincre en face de lui. Il va adapter son discours à chaque personnalité et cela est tout un art. Il va réussir à remettre en question leurs convictions et leurs préjugés qu'ils avaient concernant l'accusé. Il va tout faire pour convaincre les autres jurés de voter non coupable en élargissant le champ des doutes possibles et en tentant de leur faire oublier leur a priori. De ce fait, il parvient de façon claire et crédible, car argumentée, à imposer son point de vue et à le faire comprendre à ses interlocuteurs. Il amène donc les jurés à questionner leur intuition et à renverser les préjugés. Tout seul, par la seule force de la persuasion, il va réussir à les persuader et à les faire changer d'avis. Ce film nous montre comment la parole parvient à changer l'opinion dominante, il est également un véritable plaidoyer contre la peine de mort. J'ai particulièrement apprécié ce film, d'une part pour son originalité, car il ne se déroule que dans un seul endroit, c'est ce qu'on appelle un huis clos. Dans ce film, la tension est toujours présente et le basculement progressif de l'opinion dominante est particulièrement prenant. La mise en scène est plutôt minimaliste, mais reste tout de même efficace. En plus d'être un film avec de nombreux retournements de situation, c'est également une œuvre originale qui pose des questions essentielles sur la justice, la peine de mort ou la tolérance, et qui nous amène donc à réfléchir sur ces sujets importants. Ce film est passionnant par la manière dont il arrive à nous captiver tout en donnant matière à réfléchir.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui m'a particulièrement plu et qui mérite qu'on en parle. Le film en question est Premier Contact, qui a été réalisé par Denis Villeneuve. Ce film, sorti en 2016, a suscité une réflexion profonde à notre capacité à communiquer. Ce film est une adaptation de la nouvelle « L'histoire de ta vie » de Ted Chiang. Ce film de science-fiction raconte l'histoire de Louise Banks, une linguiste renommée, jouée par Amy Adams, qui est chargée de percer le mystère de l'arrivée de 12 mystérieux vaisseaux extraterrestres sur Terre, avec l'aide de Donnelly, un astrophysicien incarné par le célèbre acteur Jeremy Renner. Ainsi, Louise Banks va tenter de communiquer avec ces entités inconnues et de comprendre leurs intentions. Premier Contact se distingue énormément des autres films de science-fiction que l'on connaît et qui pour la plupart se focalisent énormément sur les effets spéciaux, tandis que Denis Villeneuve donne une grande importance émotionnelle de la communication intergalactique et une réflexion sur le langage, la communication dont ces entités font part avec Louise Banks et Donnelly. Les images et les décors créés sont à couper le souffle, puisque nous, spectateurs, sommes complètement immersés dans cet univers. De plus, la musique de Johan Johansson apporte une expérience cinématographique supplémentaire en créant une atmosphère à la fois angoissante et émouvante. Premier Contact est un film riche en messages profonds. Il invite le spectateur à une réflexion sur l'importance du langage. En conclusion, je vous conseille à tous de regarder Premier Contact de Denis Villeneuve. Il nous plonge dans une réflexion sur notre humanité et au-delà de ça, nous rappelle que la communication est fondamentale dans notre humanité.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Joseph, je suis en première LG5, en spécialité humanité. Et donc dans le cadre de cette spécialité, j'ai dû regarder un film qui s'appelle Premier Contact, qui a été réalisé par Denis Villeneuve en 2016. Ce film raconte l'arrivée sur Terre de mystérieux vaisseaux extraterrestres et des tentatives des humains pour établir un contact entre eux et les aliens. On suit dans le film une linguiste et un mathématicien américain qui, chaque jour, vont tenter des choses pour arriver à parler, à communiquer avec les aliens du vaisseau qui atterrit aux États-Unis. Le film a deux points forts à mon avis. Premièrement, c'est l'écriture de son scénario. L'histoire qu'il raconte est absolument magnifique. Comme c'est de la science-fiction, on peut s'affranchir de certains codes du monde réel et donc laisser libre cours à notre imagination, ce qui a permis le développement d'un principe, d'une idée. La base du scénario est axée sur un principe qui est exceptionnellement fou à concevoir et qui permet un développement d'univers qui est absolument incroyable et magique presque. Et lorsqu'on se rend compte dans le film, on est émerveillé de voir tout ce que ça donne et tous les résultats que ça peut amener. Et son second point fort, c'est l'écriture de ses personnages. On suit donc cette linguiste et ce mathématicien, et certes, on pourrait croire qu'ils sont dénués d'émotions parce que leur but, c'est d'établir le contact, mais en réalité, ce sont des humains. Donc on les voit avoir du mal à communiquer avec eux, on les voit évoluer dans un environnement stressant, donc on se met un peu à leur place, on se dit que ça doit être difficile. On voit aussi qu'ils arrivent aussi avec leurs propres expériences, donc des choses parfois qui peuvent être dures à affronter ou des choses qui peuvent les bloquer parfois. On voit les liens qui se créent entre eux, comment ils arrivent à trouver des solutions, à les mettre en place et enfin à arriver à communiquer. Pour ces deux points, je trouve que le film est remarquable et extrêmement bien fait. C'est un très bon film de science-fiction que je vous recommande vivement et j'espère que vous irez le voir après m'avoir écouté.